Le dévoilement de Dieu numéro 95. Les deux vignes. Les attributs partagés, les deux font des œuvres. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Le 12 mai 2019. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, nous allons examiner ce sixième attribut partagé que les deux vignes, la vraie et la fausse, ont en commun. S'estère que les deux font des œuvres pour être agréables à Dieu, et s'estère leurs fruits qui les distinguent. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 7 pour prendre la lecture de notre texte de ce matin. Matthieu 7.15. Gardez-vous des faux prophètes, des fausses vignes qui enseignent. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, qui viennent d'une manière non menaçante, en ayant partiellement une apparence chrétienne, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Cela signifie qu'intérieurement, ils sont des rapaces, enclins à s'emparer par le pillage ou à satisfaire leur avidité. Et par là, il veut dire qu'ils sont excessivement avides, prédateurs, exorbitants. Puis il nous dit 16, vous les reconnaîtrez leurs fruits. Maintenant, il n'est mis s'arrête pas là mais, en fait, continue à peindre une image mentale, afin que vous n'ayez mis puissiez pas manquer où il veut en venir. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Autrement dit, leur fruit vient avec une pénalité, votre sang. Des raisins sur des épines seraient risqués pour votre santé, et des figues, sur des chardons, n'aimez vaudrait pas l'effort produit pour les cueillir. Or le fait est que les raisins n'aimés poussent pas sur des épines, ni les figues sur des chardons. Il semble donc que la plante a des fruits, figues ou raisins, mais ce fruit est très coûteux, parce qu'elle vous l'offre tout en vous dépouillant de tout ce que vous possédiez dans le processus. Alors sachez une chose avec certitude, ce n'est pas une vraie vigne, mais une fausse vigne. Puis il nous dit comment comparer la vraie vigne à la fausse vigne. 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, un arbre pourri, sans valeur, nuisible et moralement corrompu, porte de mauvais fruits, pourri, sans valeur, nuisible et moralement corrompu. Un fruit pourri est un fruit qui a mûri un autre jour. Si est-ce pourquoi il est pourri? Parce qu'il est trop mûr. Il était mûr à un moment, mais il n'est mis l'ester plus. Cela parle donc non seulement du moralement corrompu dans le caractère, et cela se reflète dans leurs actions, mais aussi dans leurs discours. 18. Un bon arbre némi peut porter de mauvais fruits ou de fruits pourris, ni un mauvais arbre, porter de bons fruits. Par conséquent, voici la clé pour comprendre qui est une vraie vigne et qui est une fausse vigne. Une vraie vigne portera du fruit en sa saison, et sera moralement bon. Mais une fausse vigne n'émit, porte pas ses fruits en sa saison. C'est ce que David nous dit dans le psaume 1 où il compare les hommes à des arbres. Psaume 1.1. Heureux l'homme qui n'émit marche pas selon le conseil des méchants. Qui n'émit s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui n'émit s'assied pas en compagnie des moqueurs. De mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage n'est mis se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Remarquez que l'homme qui est juste et qui est les vrais vignes est comparé à un arbre. Remarquez les trois choses qu'on dit de lui. 1. On parle de son fruit. Il donnera son fruit dans la bonne saison. Puis on dit son feuillage n'est mis se flétrira pas. Or le feuillage représente la condition de la vie qui est dans l'homme. Fr. Branham en parle dans son sermon Le Compte à rebours dimanche 25 novembre 62 et où il dit, 17 une feuille est suspendue à un arbre. Et la chose suivante, vous savez, cette feuille commence à changer de couleur lorsque la vie la quitte. Qu'arrive-t-il? Cela. La vie qui estère dans la feuille retourne à la racine de l'arbre d'où elle estère venue, uniquement pour revenir au printemps, apporter une nouvelle feuille. Et nous sommes attachés à l'arbre de la vie lorsque nous naissons de nouveau. Et lorsque la vie quitte comme ceci, elle retourne auprès de Dieu qui l'a donnée, pour revenir dans le millénium avec une feuille qui n'est mise pourra pas tomber de cet arbre-là. Amen. Vous y êtes, éternel. C'est Esther la vie perpétuelle. Nous avons la vie éternelle. Voyez. Elle tombe. Elle revient. Qu'Esther's? Le naturel Esther le type du spirituel. David nous dit donc que ce juste, non seulement, portera son fruit dans la bonne saison, mais son feuillage, qui représente sa vie, Néhémie se flétrira pas, signifiant que la vie en lui est éternelle. Et la dernière chose qu'il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Ainsi, il n'y a, ici, ni mort, ni pourrissement. Il n'y a pas, ici, de retour en arrière. Maintenant, comparez cela à la fausse vigne qu'il appelle les méchants. Ils sont également comparés à des arbres. Et pour eux, il dit, quatre ils n'en estèrent pas ainsi des méchants. Ils n'est mis sont pas comme la vraie vigne qui porte son fruit en sa saison. Ils n'est mis sont pas comme la vraie vigne dont la vie montre toujours la vie éternelle. Et ils n'est mis sont pas comme la vraie vigne qui prospère. Par conséquent, s'ils n'est mis sont pas ces choses, ils sont le contraire de ces choses. Puis il nous dit ce qu'ils sont. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et qu'est-ce ce que la paille? C'est Esther la partie desséchée d'une plante qui se dessèche au temps de la récolte. Frère Branham dit de la paille ou la balle. Trois sortes de croyants d'hymne 24 novembre 63 est 37 et c'est Esther lui qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Quand la question lui fut posée, tandis que là, la foule se divise en croyants, incrédules, et soi-disant croyants. Ces trois groupes se tenaient juste là dans cette seule compagnie de gens, les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. On les trouve les mêmes dans ce chapitre. Et c'est-à-dire parce que Jésus prononça ces paroles de cette manière que cela divisa son assemblée, mais il le fallait. 38 Il était un grand homme tant qu'il guérissait les malades, mais quand il en estère arrivé à la doctrine et à la prophétie, voilà qui a séparé la balle du blé, vous voyez. La balle constitue simplement l'enveloppe du blé, elle n'estère pas le blé. On n'y peut rien en faire. Il n'y a rien en elle, il n'y a pas de vie en elle. Si Esther l'enveloppe et elle n'y peut rester avec le blé. Elle n'héritera pas avec le blé. David continue au verset 5 Esther pourquoi les méchants Néhémie ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Autrement dit, la paille ou la balle que le vent dissipe Esther ce groupe de gens qui traînent avec le blé, mais le vent, Paul nous dit, typifie la doctrine. Souvenez-vous, il a dit tout vent de doctrine viendra dans l'église pour emporter ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Le vent ou la doctrine emporte donc la balle, paille, parce qu'elle n'a pas la vie en elle. Et les ennemis peuvent donc pas résister ni s'asseoir en compagnie des justes. Parce que les justes sont remplis de la vie éternelle et la paille est morte sur la vigne et n'a pas de vie en elle. 4. Ils sont comme la paille que le vent, la doctrine, dissipe. 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Or ce verbe connaître est tiré du mot hébreu, yada signifiant connaître en surveillant d'une participation active, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Or cette locution menée à la ruine fut traduite du mot hébreu abad et signifie être livré à soi-même de façon à ce qu'on s'éloigne et qu'on périsse. Il n'y a donc pas de surveillance active qui vient d'une participation active pour la fausse vigne. Ils sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils périssent. Maintenant, Revenons à ce que Jésus a dit dans Matthieu 7.19. Tout arbre qui n'est mis, porte pas de bons fruits, ester coupé et jeté au feu. Vingt ester donc à leurs fruits, que vous les reconnaîtrez. Tout se résume donc aux fruits. Et vous les reconnaîtrez leurs fruits. Qu'ils soient la vraie vigne ou la fausse vigne. Puis il nous dit que ce n'estère pas ce qu'ils font. Ce n'estère pas leurs actions. Ni leurs œuvres, car ils ont tous les deux des œuvres. Mais tous les deux n'ont pas le même fruit. 21 Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Remarquez qu'en utilisant les mots, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, il nous dit qu'à la fois la vraie et la fausse vigne appelleront Dieu leur Seigneur. Et au verset suivant, il dit, 22 Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement, je n'ai mis vous ai jamais connu. Je n'ai mis vous ai jamais à Ginosco. Je n'ai mis vous ai jamais connu d'une relation intime. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et nous savons tous que l'iniquité, c'est taire, vous savez quoi faire mais vous n'aimez le fait, pas. Ainsi, ce sont des pratiquants et des bûcheurs, mais ils n'avaient aucune relation intime avec le Seigneur. Cependant, ils invoquaient le Seigneur et priaient au nom du Seigneur et prêchaient même au nom du Seigneur et accomplissaient des œuvres surnaturelles au nom du Seigneur. Par conséquent, remarquez que Jésus décrit la fausse vigne comme des bûcheurs et qu'ils iront jusqu'à faire des grands efforts pour montrer le travail qu'ils font pour le Seigneur. Mais il nous dit aussi qu'un arbre corrompu, qui estère la fausse vigne, n'est mis peut porter que des fruits corrompus ou des mauvais fruits. Les fruits d'une autre saison. Il a dit, un arbre corrompu produit des mauvais fruits. Puis il a dit, un bon arbre n'est mis peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ainsi, même s'il travaille, il y a cependant une différence entre les fruits de l'arbre juste et les fruits de la fausse vigne. Et ce matin, nous allons donc étudier la différence, parce que c'estère la différence, qui déclarera si la vigne estère une vraie vigne ou une fausse vigne. Verset 18 Un bon arbre n'est mis peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Or voici la clé pour comprendre la vraie et la fausse vigne. 19 Tout arbre qui n'est mis porte pas de bons fruits, ester coupé et jeté au feu. 20 Ester donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Par conséquent, bien que la vraie vigne et la fausse vigne portent des fruits, c'estère cependant le fruit lui-même qui déclarera si la vigne estère vraie ou fausse. Dans son sermon l'épître aux Éphésiens estère comparable au livre de Josudime 15 mai 60 et 72 par contre, il y a une chose qu'ils sont capables de faire, ce sont de bons travailleurs. Oh! Ils n'aiment ils font que travailler. Ça me fait penser à une bande de ces Arméniens, qui cherchent à entrer au ciel par leur travail. C'est-à-dire vrai? Un mulet. Oh! La société de bienfaisance des dames? Et on organise un souper à base du poulet. Pour pouvoir payer le prédicateur. Et nous devons avoir cette soirée dansante. Et cette fête entre amis. Ce n'est-à-dire que travail. Et il. Pourquoi travaille-t-il? 73 Demandez-leur, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? 74 Ils dressent leurs oreilles, et ils ignorent leur appartenance. Ils vous diront, que voulez-vous dire? Qu'en est-il de ceci et de cela? Qu'entendez-vous par le Saint-Esprit? Je n'en ai jamais entendu parler. Vous devez être une espèce de fanatique. Vous voyez? Ils n'y savent pas qui a été leur papa, ni qui a été leur maman non plus. Et il faut toujours les taper dans tout ce que vous faites. Taper par-ci et taper par-là. Et taper par-ci et taper par-là. Sester Vray, un vieux mulet. Et dans son sermon L'âge de l'église d'Éphèse le 5 décembre 1640, frère Branham dit, 140 si Dieu a cela contre cette église-ci, il en a aussi contre celle-là. L'assemblée crie, Amen. NDE, ce que j'ai contre toi. Sester que tu as abandonné ton premier amour. J'ai quelque chose contre toi. Sester cela mon grief. Autrefois, tu avais des moments glorieux, mais tu as commencé à laisser le monde s'infiltrer au milieu de toi. Et tu t'es mis à agir de façon un peu formaliste. Tu gardes toujours mon nom et tu fais toujours les choses qui sont justes. Et tu as beaucoup de patience et le reste. Et tu travailles dur et tu ailles comme un mulet. Tu n'es mis fait que travailler dur et faire des œuvres. 141 oh, là là. Oh, là là. Vous voyez, tu as abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre les durs labeurs et les œuvres. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de caractéristiques que tous les deux partagent, et, après tout, ils ont la même mère. Ils ont une même église. Ils partagent la même naissance lors du même réveil. Et souvenez-vous, chaque réveil de Dieu est intervenu lorsque Dieu a envoyé une doctrine pour cet âge-là et l'a soutenue par des démonstrations surnaturelles. Par conséquent, on doit s'attendre à ce que les deux soient des croyants, et que les deux soient religieux. Parce qu'après tout, tous les deux sont nés lors du même réveil. Si donc vous vous attendez à ce que votre religion vous sauve, vous vous préparez à un réveil brutal. Si donc, ce sont les fruits qui les déclarent, alors nous devons observer les fruits, car nous reconnaîtrons qui est la vraie et qui est la fausse vigne, par la déclaration de leurs fruits produits par leurs œuvres. Et cependant, étant tous les donnés au même moment, et ayant tous les deux ont la même mère, le même réveil, la même conception doctrinale, on devra facilement comprendre comment ils croient tous les deux en Dieu, et tous les deux sont donc religieux, tous les deux offrent des sacrifices au même Dieu, et tous les deux chantent les cantiques d'un même recueil, et tous les deux peuvent même être assis sur un même banc d'église. Alors on comprendrait également que tous les deux feront des œuvres pour être agréables à Dieu, mais le fruit de ces œuvres est le moyen par lequel on peut distinguer la vraie vigne de la fausse. Ainsi, nous allons, ce matin, étudier le prochain attribut partagé en montrant comment les deux vignes font des œuvres pour être agréables à Dieu, mais que le seul moyen à notre disposition pour les distinguer, c'est par les fruits même du travail qu'ils font. Après tout, Jésus-Néhémie nous a-t-il pas dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Relisons ce que Jésus a dit dans Matthieu 7.16. Vous les reconnaîtrez, comment? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18. Un bon arbre Néhémie peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui n'est mis porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je n'ai mis vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a donc une chose sûre et certaine concernant ce que Jésus nous enseigne ici. Et c'est-à-dire qu'il y a des fruits considérés comme bons et qu'il y a des fruits considérés comme mauvais. Par conséquent, le fruit lui-même nous donne l'indice pour savoir qui était à la vraie vigne contre qui était à la fausse vigne. Je l'ai fait remarquer à des gens, pendant des années je leur ai dit que William Branham, le prophète de Dieu, a dit qu'un homme qui enseigne la Trinité est un faux prophète. Certains de ces hommes acceptent parce qu'ils croient en la confirmation, pendant que les autres pensent mieux connaître et disent que c'est porter un jugement. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose sûre et certaine. À moins d'avoir le Saint-Esprit, vous serez séduit. Voilà tout. Maintenant, en disant cela, je n'ai mis dit pas que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes une mauvaise personne. Je dis seulement que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez une personne séduite, ou une personne qui pourrait être séduite. Ce n'est pas porter un jugement, mes frères et sœurs, c'est un fait biblique. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2 que je vous ai, peut-être, lu et relu plus que tous les autres versets des Écritures, parce qu'il est crucial pour vous de connaître et de comprendre. Alors lisons-le une fois de plus. 7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul nous a donc dit que ce que vous faites dépend de ce que vous savez. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire parce qu'ils n'aimaient le connaissaient pas. Ça, c'est un fait. Ils n'aimaient le connaissaient pas et ils ont donc crucifié le Seigneur de gloire. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Maintenant, continuons à lire parce qu'ici ça devient encore plus définitif. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'ont point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. D'accord? Ici, il déclare donc catégoriquement que les hommes entendent mais ils n'entendent pas et qu'ils voient mais qu'ils n'y voient pas parce que ce qu'ils voient et entendent, ils n'y le comprennent pas. C'est contre la même chose que Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 13.10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Remarquez, le langage ici est très spécifique. La plupart des gens lisent ce qui a été dit ici sans considérer ce qui se passe. Les apôtres ont spécifiquement demandé à Jésus pourquoi il leur parlait. En parlant des gens de l'extérieur, en utilisant des paraboles lorsqu'il parlait. Et cela est confirmé dans l'évangile de Marc au 4e chapitre, alors que nous le lisons pour votre bénéfice. Marc 4.10 lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais, d'autre part, pour ceux qui sont dehors, à l'extérieur, tout se passe en paraboles. Jésus fait donc une distinction entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. C'est pourquoi je répète constamment, que vous ne devrez pas écouter des hommes, qui sont en dehors du message avec lequel Dieu est descendu en cette heure, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la parole de Dieu. Oh! Ils peuvent prétendre être des Juifs. Alors quoi? Les Juifs ont tué le Messie, alors que savent-ils de la parole de Dieu? Plus un rabbin est grand, plus grande est la séduction. Puis nous avons en ce jour des anciens Juifs, prétendent-ils, qui sont devenus des chrétiens, soi-disant. Cependant, tous ceux que je connais, qui ont traversé pour devenir des soi-disant chrétiens sont, en fait, devenus des trinitaires. Et si vous savez quelque chose sur le trinitarisme et ses racines dans les mystères de Babylone? Être trinitaire? C'est-à-dire être antichrist? Ces soi-disant juifs messianiques prouvent donc ce qu'ils sont vraiment. Ce sont des moqueurs de la parole de Dieu, et ils n'y sont rien de moins que des païens eux-mêmes. Et ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Un vrai juif Néhémie, croirait jamais en un dieu trinitaire? Où trois personnes forment le système d'un dieu unique? C'est-à-dire de la folie de croire de telles absurdités. Et cela devrait vous faire fuir ce qu'ils disent. Parce qu'ils Néhémie connaissent même pas Dieu. Et s'ils Néhémie connaissent pas Dieu alors comment vont-ils vous enseigner quelque chose de correct? S'ils connaissaient Dieu, ils n'enseigneraient pas une doctrine catholique, qui sort directement des mystères de Babylone. Aucun vrai juif n'accepterait une divinité de trois personnes. Le premier commandement dit, le Seigneur ton Dieu est un seul Seigneur, et tu n'adoreras aucun autre Dieu et s'il l'accepte, alors vous les reconnaîtrez leurs fruits. Et cela, en soi, commence à vous dire ce que sont les fruits. Mais nous garderons cela pour plus tard. Ainsi, Jésus continue de parler de ceux qui sont à l'extérieur, quand il dit au verset 12 « Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point. » Ainsi, à quoi bon voir quelque chose si vous n'y percevez pas ce que vous voyez? Et puis il ajoute, et qu'en entendant ils entendent et n'y comprennent point. Et à quoi bon entendre quelque chose si vous n'avez aucune compréhension de la chose que vous entendez? C'est-à-dire pourquoi l'apôtre Paul nous a avertis de n'y pas parler en langue inconnue dans l'assemblée? Parce que les visiteurs penseraient que vous êtes fous. C'est-à-dire pourquoi je n'y vais pas dans les conventions à l'étranger pour prêcher ou d'autres ministres prêchent également. Bien que je pourrais lire certains de ces prédicateurs en français et en espagnol, je n'ai peut cependant pas comprendre ce que les autres prédicateurs seraient en train de lire et c'est-à-dire donc une perte de temps absolue d'aller simplement s'y asseoir. L'apôtre Paul nous a dit cela dans 1 Corinthiens 14.2 en effet. Celui qui parle en langue n'ai parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne n'ai le comprend. Et c'est-à-dire en esprit qu'il dit des mystères. 3. Celui qui prophétise, prêche, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise, celui qui prêche, édifie l'Église. 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, prêchiez. Celui qui prophétise, prêche, est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Si c'est maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parler en langue, et si je n'ai mis vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, par prédication, ou par doctrine, celles-ci les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, Néhémie, rendent pas des sons distincts? Comment reconnaîtra-t-on ce qui Esther jouait sur la flûte ou sur la harpe? 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 9. De même vous, si par la langue vous Néhémie donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est-il aucune qui n'ait mis, soit une langue intelligible. 11. Si donc je n'ai mis, connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Mais l'Évangile a été présenté au monde de façon telle que personne n'ait mis puisse le comprendre, à moins que l'esprit du compositeur soit en lui. Dieu a écrit sa parole de façon telle, qu'à moins que vous soyez à l'intérieur ou que son esprit soit à l'intérieur de vous, jamais, vous Néhémie percevrez ni Néhémie comprendrez la parole de Dieu, de quoi il s'agit. Je m'en fiche donc de savoir à quel point vous savez parler hébreu et grec. Cela Néhémie vous fera aucun bien. Pas même un peu? Oh, les simples d'esprit entendent quelqu'un dire un mot hébreu ou grec et ils pensent, oh là là. Il doit savoir de quoi il parle, car il le dit de façon si convaincante. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'est pas venu en 7 heures parlant l'hébreu ou le grec. Il est venu parlant une langue anglaise, qui est une version du Kentucky de l'Esther de la langue anglaise, qui est si élémentaire qu'elle a complètement confondu les sages et les intelligents. Dans Corinthiens 1.27 l'apôtre Paul a dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28 Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui n'aient mis son point. Pour réduire à néant à rien celles qui sont. Et quel en était le but ?» Jésus continue en disant, 12 Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant ils entendent et n'aient mis comprennent point. De peur qu'ils n'aient mis se convertissent. Et que les péchés n'aient mis leur soient pardonnés. 13 Il leur dit encore, « Vous Néhémie comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» 14 Le semeur sème la parole. Remarquez. Il conclut en disant, « Vous Néhémie comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» En revenant donc à Matthieu 13. Nous entendons Jésus nous dire qu'à moins que vous soyez à l'intérieur, vous entendrez mais vous n'y comprendrez pas. Et vous pourrez même voir mais vous n'y pourrez pas percevoir ce que vous voyez. 11 Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela n'y leur a pas été donné. En clair, il nous dit que certains sont destinés et prédestinés à connaître tandis que d'autres, qui sont à l'extérieur, peu importe combien ils voient et entendent, ils n'y pourront jamais assembler les pièces du puzzle. Or, rappelez-vous, Dieu interprète ses propres paroles en la faisant s'accomplir. Il dit donc en fait, même si vous entendez ce que Dieu dit, et que vous le voyez s'accomplir, vous n'aurez jamais une idée de ce que vous voyez. À moins que vous soyez destiné à entendre et à comprendre ce que vous entendez, voyez et percevez. Alors ceux qui sont à l'extérieur, il nous fait savoir que ce sont ceux à l'extérieur de Dieu, et Néhémie ne font donc pas partie de l'élection. Parce que si vous n'étiez pas en lui avant les fondations du monde, vous n'entreriez jamais en lui, vous seriez toujours étranger. Puis il dit ces très belles paroles. 12 Car on donnera à celui qui a, quiconque Esther fait de manière à faire écho à ce que j'ai dit, sourire. Et il sera dans l'abondance. Et pourquoi aurez-vous plus d'abondance? Parce qu'un écho n'Esther pas une seule répétition mais une restitution continuelle de ce que vous entendez, mais à celui qui n'a pas, quiconque n'Esther pas fait de manière à pouvoir faire écho, on notera même ce qu'il, pense qu'il a. Ou pense qu'il fait l'écho. Écoutez, le mot grec est akiomegaester prononcé et que il signifie prononcer, résonner, retentir, réverbérer, répercuter ou faire écho. Et c'est ce que signifie également le mot anglais, écho, de même que le mot français écho et le mot espagnol écho. Et ils ont tous été traduits du même mot original grec. Ainsi, revenons à ce que Jésus nous dit ici dans Matthieu 13. Il dit, 13 Sesterces pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ils n'aient voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni n'aient comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous n'aient comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous n'aient verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'aient mis voix de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'aie mis les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 17 Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et Néhémie l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et Néhémie l'ont pas entendu. Par conséquent, peu importe qui vous prétendez être, ou ce qu'Esther votre expérience. À moins que vous ayez l'Esprit de Christ en vous, vous Néhémie pourrez pas comprendre les choses de Dieu comme l'apôtre Paul le fait clairement comprendre dans 1 Corinthiens 2. Or souvenez-vous, nous avons déjà lu le verset 9 où il dit, 9 mais, comme il Esther écrit et il Esther écrit par Esaïe. Ainsi, comme Esaïe l'a écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'émis son point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et pourquoi cela? Parce que Paul nous dit au verset suivant. 1 Corinthiens 2.1 dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc à moins que Dieu vous les révèle par son Esprit, vous n'aimez connaître jamais les choses de Dieu. Cela se résume à la révélation et à savoir si vous avez ou pas l'Esprit de Dieu en vous afin de recevoir la révélation de Dieu. Et bien sûr, Paul le dit très clairement lorsqu'il ajoute, 11 lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est Esther l'Esprit de l'homme qui Esther en lui. De même ou pareillement, personne n'aime et connaît les choses de Dieu, si ce n'est Esther l'Esprit de Dieu. Et donc, de la même manière que l'une à la surface d'un arbre Néhémie pourrait comprendre les voix des hommes, de même un homme qui n'estère pas rempli de l'Esprit de Dieu Néhémie pourrait jamais comprendre les choses de Dieu. Peu importe que vous soyez né et aviez été élevé ou pas comme juif. Si vous voulez comprendre les choses d'un juif alors soyez juif. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Il est venu chez les Juifs et la plupart d'entre eux l'ont rejeté lorsque Dieu est descendu dans son Fils. Et puis Paul dit, 12 Or nous n'avons pas reçu, alors, Paul qu'Esther ce que nous n'avons pas reçu? L'Esprit du monde. Très bien. Merci Paul de nous dire ce que nous n'avons pas reçu, mais qu'Esther ce que nous recevons pour comprendre les choses de Dieu. Et il dit, mais nous avons reçu, sourire, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous ait données par sa grâce. Ils n'aimaient pas parce qu'ils n'étaient pas essentiels à voir, alors pourquoi perdriez-vous une minute de votre temps à écouter ce qu'ils ont à dire? C'était absolument une perte de temps et tout ce que cela peut vous faire. Esther de vous amener à croire qu'ils ont quelque chose quand ils n'ont absolument rien en rapport à cette heure. Et remarquez, Paul dit, cela ne vient pas de la sagesse de l'homme de toute manière, cela vient par l'enseignement du Saint-Esprit, et lorsque cela vient à vous, Esther l'enseignant intérieur qui l'apporte, et non l'enseignant extérieur qui vous enseigne. 13 Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal Néhémie reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et Néhémie peut les connaître, parce que c'est Esther spirituellement qu'on en juge. Dans son sermon écouté le 19 février 58, P. Frère Branham dit, 24 Le Saint-Esprit Esther l'enseignant de l'Église. Combien le savent? Assurément, le Saint-Esprit Esther l'enseignant. Mais nous avons adopté les papes, les évêques, et tout le reste à la place. Mais le Saint-Esprit Esther le tuteur, le précepteur, l'enseignant du corps de Christ. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Néhémie sont pas condamnés. Ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et dans l'exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de Smyrne. Page 143-143-1 Or, quand Dieu se tait, Nous faisons mieux de nous taire. Mais là où il a parlé, nous faisons mieux de parler, nous aussi, et de dire ce qu'il a déjà dit. Il nous a dit que le signe, ce qui se produirait après le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet enseignant est-il un enseignant intérieur? Pas un enseignant extérieur. Si l'esprit n'était pas à l'intérieur, vous n'entendriez pas la vérité en la recevant par révélation, même si vous l'entendiez à longueur de journée. C'était le signe que l'esprit habitait à l'intérieur à l'époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la parole, la recevaient et vivaient par elle. Ceux qui n'avaient pas l'esprit l'entendaient seulement comme des hommes charnels. Ils y mettaient une fausse interprétation et ils s'en allaient dans le péché. Si donc Dieu a une parole pour cette heure-ci, eux que les hommes essaient d'enseigner autre chose que ce qui a été apporté par Dieu lui-même, qui est-ce descendu avec un cri de commandement, qui est-ce le message, alors tout ce qui est-ce en dehors de ce que Dieu a apporté, c'est l'enseignement de l'homme et non celui de Dieu. Essayez de leur dire qu'ils ont tort et ils s'énervent et disent que vous portez un jugement partial. Eh bien, mon frère, je juge parce que l'apôtre Paul dit à la ligne suivante des Écritures que si je suis spirituel, je suis censé juger. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Et si vous n'êtes pas spirituel, alors vous n'êtes pouvez juger de tout, car nous jugeons comme Jésus avant nous, nous jugeons de tout par la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 12.48 « Celui qui me rejette et qui n'est reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » 49 « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Et le fait de juger par la parole montre qu'il y a un certain niveau de discernement impliqué, et nous sommes censés discerner ce qui est réellement de Dieu de ce qui n'est mis l'ester pas. Alors Paul conclut dans 1 Corinthiens 2.16 en disant au verset 16 « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Et l'apôtre Jean nous a donné l'ordre de juger, d'éprouver l'esprit des hommes, et de faire la distinction entre ce qui est juste et ce qu'il faut, entre celui qui a l'esprit de Dieu et celui qui en est dépourvu. 1 Jean 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, testez l'esprit, examinez-le et discernez-le, puis jugez-le, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, prédicateurs et docteurs sont venus dans le monde. Ainsi, ce matin, nous étudions le fait que la vraie vigne et la fausse vigne porteront du fruit, qui est la manifestation de leurs œuvres. Mais le fruit lui-même déclarera laquelle est la vraie vigne et laquelle est la fausse. Par conséquent, dans son sermon Les Oins du Temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 M59, frère Branham nous dit ce qu'est le fruit lorsqu'il dit, 59 remarqué, mais c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leur fruit, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On n'aime et cueille pas des raisins sur des chardons, même si le chardon peut être en plein sur la vigne. Ça, c'est possible. Mais c'est au fruit qu'on saura. Le fruit, c'est quoi? La parole pour le fruit pour la saison. Voilà ce que c'est, leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison, l'heure qu'il est. Une doctrine de l'homme, qui est la doctrine dénominationnelle, mais ou bien la parole de Dieu pour la saison. Il nous est dit dans Proverbe 23.7 car il, l'homme, est comme les pensées de son âme. Et nous entendons aussi Jésus dire dans Matthieu 12.34 race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes? Rappelez-vous l'arbre qui est pourri? Qui est la fausse vigne? Néhémie peut pas produire de bons fruits, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 35 L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36 Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37 Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Si donc le fruit est l'enseignement de la saison, alors leur fruit est ce qu'ils enseignent comme parole de Dieu pour la saison dans laquelle ils vivent. C'est de l'abondance du cœur, la compréhension, que la bouche parle. Et si vous êtes rempli de l'esprit alors vous connaîtrez et reconnaîtrez la parole du jour dans lequel vous vivez. Et si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous direz des paroles. Mais seulement celles qui viennent de votre propre cœur ou compréhension. Il y a des années, j'ai prêché un sermon sur les paroles que Jésus a dites dans Luc 8.18 lorsqu'il a dit, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas en autre même ce qu'il croit avoir. » Et aussi dans Marc 4.24 il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. » Et souvenez-vous, entendre, c'est comprendre. Voilà ce que frère Branham nous a enseigné. L'instrument de mesure avec lequel vous entendez, c'est la mesure que vous recevrez. Si vous utilisez un prophète confirmé pour entendre et comprendre, alors vous recevrez davantage de cette parole confirmée. Mais si vous utilisez un filtre baptiste, ou un filtre pentecôtiste ou même un filtre juif, c'est tout ce que vous arriverez à comprendre. Maintenant, pour illustrer cela, j'avais mis la poupée d'un agneau en peluche sous une couverture puis j'ai demandé à l'assemblée d'identifier les attributs qu'ils pouvaient voir. Certains ont dit qu'ils voyaient vu une grosseur sous la couverture, et d'autres ont dit qu'ils voyaient une bosse, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient proposer. Alors, j'ai divisé l'église en plusieurs groupes et je leur ai dit que j'allais leur énoncer certains attributs de ce qui était sous la couverture. Puis j'ai donné une note à un groupe qui disait, à chaque fois que vous entendez énoncer un attribut, pensez à un petit chiot. Et j'ai donné une autre note, à un autre groupe dans un autre coin de l'église, qui disait, chaque fois que vous entendez énoncer un attribut, pensez à un petit lapin. Mais au troisième groupe de croyants, j'ai donné une note qui disait, « N'aimez vous décidez pas jusqu'à ce que vous ayez entendu énoncer tous les attributs. » Puis j'ai poursuivi en nommant plusieurs attributs, à toute l'église, et à chaque attribut énoncé, ceux qui pensaient à un petit chiot et ceux qui pensaient à un petit lapin lorsqu'ils ont entendu les attributs cités et écrits sur un tableau, cela a mis le doigt sur ce qu'ils pensaient être sous la couverture. J'ai donné des attributs tels que, cela a quatre pattes et c'est très timide. Puis je regardais les deux groupes à qui il a été dit à quoi penser. Et je disais, est-ce ce correct? Et il disait, oui. Puis je disais, cela a un pelage très doux. Puis je regardais encore les deux groupes à qui il a été dit à quoi penser. Je disais, est-ce ce correct? Et il disait oui. Et puis je disais, parfois, il a des couleurs sur son pelage. Puis je regardais les deux groupes à qui il a été dit à quoi penser. Et je disais, est-ce ce correct? Et il disait oui. Puis je disais, il est doux par nature. Il sautera même par-dessus des petites clôtures. Puis je regardais les deux groupes à qui il a été dit à quoi penser. Et je disais, est-ce ce correct? Et il disait oui. Maintenant, à chaque attribut que j'énonçais, Ce qui avait la note qui disait pensait à un petit chiot, ou la note qui disait pensait à un petit lapin. L'énoncé d'attribut semblait renforcer davantage leur compréhension à chaque attribut énoncé. Puis j'ai ajouté un dernier attribut pour voir ce qu'il ferait et j'ai dit, il est de nature à se sacrifier lui-même. Eh bien, quand j'ai dit cela, le groupe du petit chiot a dit, oui, et même le groupe du petit lapin a dit, oui. Et finalement, lorsque j'ai demandé à l'église de deviner ce qui était sous la couverture, seuls ceux qui ont attendu d'entendre tous les attributs ont eu la bonne réponse. Les autres, comme ils penchaient dans une certaine direction, ont été emportés dans leur dissimulation et ont eu une fausse réponse. Et croyez-moi, certains étaient en colère. Et je leur ai dit, je vous ai donné expressément la note, pour que vous fixiez dans votre esprit ce que vous pensiez être la réponse en sorte, que vous aviez déjà pris votre décision. J'ai dit, il se peut que vous soyez en colère contre moi de vous avoir leurré avec cette note, mais je l'ai fait pour que vous n'ayez vous laissiez jamais prendre à une fausse doctrine de prédicateur, qu'il renforce à l'aide de quelques citations et écritures rafistolées. J'ai dit, encore une fois, Néhémie, prenez jamais votre décision avec seulement la moitié des faits. Trop de gens se laissent prendre au lavage de cerveau des prédicateurs afin qu'ils croient une fausse doctrine et quand vous leur donnez des écritures et des citations qui contredisent cette doctrine, ils n'y savent pas quoi en faire. Alors ils rejettent les citations et les écritures. Galates 1.6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. C'est non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'apôtre Paul a assurément vu cette fausse représentation de l'évangile entrer dans l'église dans le premier âge de l'église, comme nous l'avons lu dans Galates chapitre 1, et au chapitre 2. Il nous dit que c'était à cause des faux frères qui se sont glissés parmi les frères. Nous voyons aussi le même avertissement dans 2 Corinthiens 11.1 au « Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous, me supportez. » 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées Néhémie se corrompent et Néhémie se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. 4. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, maintenant le mot autorici a été traduit du mot grec allo, qui signifie un tout autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit, mais ce mot autre que Paul utilise pour parler d'un autre esprit a été traduit du mot grec tro qui signifie d'une autre nature que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, et encore une fois il utilise le même mot, tro, en disant que l'évangile qu'il recevait était aussi d'une nature différente que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or ce que Paul dit ici, c'est que ces hommes se sont glissés parmi nous et qui ont enseigné le message de manière à changer la nature du message et les gens qui écoutent un tel esprit d'une autre nature que le Saint-Esprit finissent par enseigner un tout autre Jésus. Un Jésus qui est à la fois Père et Fils, qui est un comme votre doigt est un, et qui peut être tué mais qui, étrangement, sans qu'on sache pourquoi, peut aussi se ressusciter des morts. Maintenant lorsque vous croyez cela, vous croyez à un Jésus différent de celui qui a donné sa propre vie sachant que le Père le ressusciterait. Au lieu d'un Père et d'un Fils, dont la relation marche bien pour que tout le monde la contemple, vous avez un Père qui se donne naissance, et qui peut mourir et vous vous retrouvez avec une conception de Dieu tellement polluée que tout devient très mystérieux. Et plus vous examinez cette divinité plus elle semble devenir mystérieuse. Car une fois que vous commencez un mensonge, cela n'y finira jamais, et c'est la séduction que Satan a apportée dans le jardin. Un seul mensonge engendre un autre, et un autre jusqu'à ce que vous commenciez à trébucher sur quel autre mensonge dire après. Irénée avait vu ce qui s'était passé dans le premier âge et dans son livre contre les hérésies. Il a écrit, leur manière d'agir, s'estère comme si, une fois qu'une belle image d'un roi a été construite par un artiste habile à l'aide de bijoux précieux, on devait alors démonter la représentation de l'homme, et réarranger les pierres précieuses, et les assembler de manière à les transformer en la forme d'un chien ou d'un renard. Et même cela m'est médiocrement exécuté, et on devait alors soutenir et déclarer que c'était la belle image du roi que l'artiste habile avait construite. En montrant les bijoux qui ont été admirablement assemblés par le premier artiste afin de former l'image du roi, mais qui ont été, avec un mauvais effet, transférés par ce dernier en la forme d'un chien, et en exhibant ainsi les bijoux, il devait tromper les ignorants qui n'avaient aucune idée de la forme du roi, et les persuader que cette misérable apparence du renard était, en fait, la belle image du roi. Or remarquez, aujourd'hui, nous avons le chef-d'œuvre qui Esther le roi de gloire lui-même présenté aux gens par les paroles d'un prophète confirmé, et il a, avec adresse et si soigneusement, assemblé ses mots et de manière à nous présenter ce qu'il avait vu, lorsqu'il a dit, mon ministère Esther de le déclarer, lui, qu'il Esther ici. Et il Esther la divinité suprême qui Esther descendue au milieu de nous. Et ce faisant, il a révélé et dévoilé, pour nous, le Dieu puissant dévoilé. Mais comme ce prophète n'Esther, plus sur la scène pour protéger l'image de ce chef-d'œuvre, d'autres sont venus, et ont pris ces citations, qui nous présentaient le puissant roi de gloire, ces bijoux dont parle Irénée, et ils ont désassemblé le message en des extraits sonores, et citations rapides, et les ont réassemblés ou réarrangés en l'image d'un chien ou d'un renard et ils ont parcouru le monde en présentant leurs propres opinions, comme étant l'image du roi. Irénée continue, de la même manière, ces personnes rapiècent des fables de vieilles femmes, puis s'efforcent, en arrachant violemment à leur propre connexion, les mots, les expressions et, les paraboles chaque fois qu'elles s'en trouvaient, pour adapter les oracles de Dieu à leur fiction. Nous avons déjà indiqué jusqu'où ils procèdent de cette manière en ce qui concerne la plénitude. Frère Branham dit dans son sermon essayer de rendre un service à Dieu, sans que ce soit la volonté de Dieu, Psalm 27 novembre 65 des 213. Eh bien, remarquez, là, maintenant, David pensait qu'il avait tout en ordre. Et il était inspiré. Vous voyez comment le Saint-Esprit peut oindre un homme? Mais il faut que ce soit dans l'ordre de l'onction. L'esprit extérieur peut être oint du Saint-Esprit et l'âme être si noire que du charbon. Le chardon vit de la même eau qui fait pousser. Qui donne la vie au blé, elle donne la vie au chardon. Mais, au fond du chardon, il y a une vie de chardon. Elle se réjouit, elle s'épanouit, elle a la vie et elle fait tout ce que fait le blé, mais son âme est celle d'un chardon. Voyez, de faux enseignants peuvent s'élever, enseigner toutes sortes de trinités et tout le reste, en étant oint du Saint-Esprit, et accomplir autant de miracles que le véritable évangile peut en accomplir. Mais s'Esther par cette parole ici, s'Esther ce qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance de transformation d'hymne 31 octobre 65 et 264. Mais chacun d'eux a pourri dans le désert et Esther mort. Leurs âmes sont mortes et parties. Et ils étaient parfaitement dans la ligne du devoir, allant à l'église et faisant les choses même que Dieu leur avait demandé de faire. Mais ils ont accepté un faux enseignant, qui n'était pas confirmé par la parole, pour être prouvé comme étant juste. Cependant, il était docteur en théologie et quelle autre appellation quand vous désirez donner, sauf un vrai prophète, mais il n'était pas prouvé spirituellement par la parole et les signes de Dieu. Et ils ont péri dans le désert. Des gens religieux, justes, honorables, sont morts et n'aimés seront jamais au ciel. Les oies du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 m 256 allons-y maintenant. Terminons. Des oies. Des Christs. Dans les derniers jours. Mais de faux enseignants tout comme de faux prophètes. Remarquez comme c'est saisissant. Maintenant, je veux que vous compariez ceci. Nous n'avons pas le temps de le lire. Matthieu 24.24 avec 2 Timothée 3.8. Dans Matthieu 24.24, il est dit que dans les derniers jours, vous voyez, il viendra de faux Christ, de faux oins, de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles, exactement comme le vrai, et ils vont presque séduire même les élus. Les oies du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 m 67 o. Vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années, et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit, vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Mais puisque vos dénominations sont en désaccord avec cela, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Malheur à vous. Votre heure est proche. Les oies du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 m 60, mais vous pouvez voir que l'onction vient sur les injustes, les faux enseignants, et leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire, et ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comment un chardon peut-il être autre chose qu'un chardon? Peu importe la quantité de bonne pluie dont on l'asperge, il sera forcément un chardon. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il serait tellement proche que cela séduira même les élus qui sont dans les racines, si c'était possible, mais ce n'est pas possible. Le blé Néhémie peut rien faire d'autre que produire du blé, c'est tout ce qu'il peut produire. Les oies du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 m 46 remarquez, la même eau d'onction qui produit le blé, produit la mauvaise herbe. Le même Saint-Esprit, qui oint l'Église, qui donne aux gens le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Eh bien, on ne peut vraiment pas l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux oins, oint de la chose véritable, mais ils en sont de faux prophètes, de faux enseignants. Qu'est-ce qui amènera un homme à vouloir être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Eh bien, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c'est la dénomination. Voyez, de faux enseignants, de faux oins. Des Christoins, mais de faux enseignants. On ne peut pas voir cela autrement. Les oies du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 m 25 maintenant. Un oin, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oin, c'est par un prophète oin. Il s'élèvera de faux enseignants oin. Un prophète enseigne son message. Des enseignants oint, mais des gens qui sont oint ayant un faux enseignement. Des oint, des Christs, au pluriel. Des prophètes, au pluriel. Et si le Christ, au singulier, existe, alors cela devrait être des oint, et c'est leur enseignement sur la prophétie qui fera la différence. Parce que ce sont des oins, ils sont oins. Vous devez naître de nouveau d'hymne 31 décembre 61 m 129. Or, les faux enseignants amèneront de fausses naissances. Les vrais prophètes amèneront la parole. La naissance de la parole. Christ. Les faux prophètes amèneront une fausse naissance. La naissance des églises. La naissance des credos. La naissance des dénominations. Et vous voilà, frère pentecôtiste, avec de fausses sens. Plutôt sensation et vous dites un homme qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il parle en langue. J'ai vu des démons parler en langue. J'ai vu des crayons se dresser et écrire dans les langues inconnues. Cela n'est mais signifie rien. Voyez-vous? Il faut que cela soit une vie. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Frère Branham, croyez-vous parler en langue?
Oui.
Monsieur. Croyez-vous au fait de pousser des cris?
Oui.
Monsieur. En tant que chrétien, je crois cela. Je crois la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas de vie pour soutenir cela. Le baptême du Saint-Esprit dîme 28 septembre 58 M191 des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, sestère ce qui constitue le corps. Puis dans ce corps local, il y a 9 noms spirituels. L'un d'eux estère la sagesse, la connaissance, la guérison divine, le parler en langue, l'interprétation des langues, tous ces différents dons qui se trouvent dans le corps local. Et ces apôtres, pasteurs, docteurs et évangélistes, sont tous là pour contrôler que ces dons opèrent comme il faut. Frère Branham claque une fois ses doigts irène.d.e. S'il découvre quelque chose de faux qui s'élève, il le condamne rapidement parce que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Que quelqu'un vienne ici et dise, louez Dieu, j'ai de l'huile dans les mains. Regardez vous-même. Vous savez, je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai de l'huile dans la main. 192 Vous entendrez quelqu'un dire, ce n'est pas scripturaire. C'est vrai. Allons voir cela là dans cette pièce, examinons à fond les Écritures. Montrez-moi un endroit dans les Écritures qui atteste que c'est l'évidence du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit dîme 28 septembre 58 M126, souvenez-vous de ceci. Je l'ai déjà dit en commençant. Si je vous blesse, ce n'est pas là mon intention. Ceci est pour cette Église. Si vous êtes présent parmi nous, nous sommes heureux de vous avoir. Mais ceci, c'est ce que nous soutenons et c'est pour cette raison que nous n'y sommes pas une dénomination. 127 Maintenant, les dénominations pour commencer c'est fausse, et ce sont de faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal à qui et je veux que ça fasse mal à qui. Ce sont absolument de faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses et fera des compromis avec les baptistes, méthodistes, luthériens ou pentecôtistes, sachant que la Bible enseigne différemment Esther un faux prophète. N'ayez rien à voir avec ça. C'est Esther vrai. C'est Esther pourquoi je n'ai mis me suis pas joint aux assemblées. C'est Esther pourquoi je n'ai mis me suis pas joint aux unitaires. C'est Esther pourquoi je n'ai mis me suis pas joint aux baptistes, aux méthodistes ou aux presbytériens, parce qu'ils sont faux. Je n'ai mis veut pas dire que les gens qui y sont, sont faux. Je veux dire que leur théologie est fausse, car elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit dîme 28 septembre 58 M88 Il n'y a pas une brise d'écriture dans la Bible qui dit que quelqu'un a été immergé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Quiconque enseigne cela est un faux docteur. Et Pierre nous a averti que cela se produira même dans le message de l'heure au temps de la fin. De Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a achetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Quiconque contourne un messager de Dieu, poignage et vient avec une autre parole à Esther un faux docteur. Je suis étonné que des gens qui prétendent croire ce message s'assoient et écoutent des prédicateurs trinitaires et pensent qu'ils peuvent avoir raison et que William Branham a tort. Excusez-moi. Qui est Esther confirmée? Néhémie, venez pas me poser des questions si vous choisissez d'écouter ces faux docteurs-là. À l'extérieur. Je prends ce que le prophète a enseigné et le ramène directement à ce que l'apôtre Paul a enseigné. Si donc vous choisissez d'écouter ces faux docteurs-là. À l'extérieur. Votre sang n'estère pas sur mes mains. Prenez garde à qui vous écoutez. Prenez garde à ce que vous écoutez. Et prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, juin 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.